Jill est une petite fille perdue dans une grande forêt. Elle a peur, elle est désemparée et forcément, puisqu'elle a peur et elle est désemparée, elle pleure sans arrêt. Et elle finit par avoir terriblement soif. C'est alors qu'elle aperçoit un cours d'eau, une petite rivière. Jill se précipite, mais s'arrête net dans son élan. Il y a un lion couché le long de la rivière. Et voyant qu'elle a soif, le lion l'invite à boire. Est-ce que cela vous ennuierait de vous éloigner un peu pendant que je bois ? Pour toute réponse, le lion émet un grognement sourd et Jill de se dire qu'elle aurait tout aussi bien pu demander à une montagne de se déplacer. Le clapotis émis par le ruisseau commençait à la rendre folle. Vous me promettez de ne rien me faire si je viens boire au ruisseau près de vous ? Je ne fais pas de promesses. Dit le lion. La fillette a tellement soif que sans y prendre garde, elle a fait un pas en avant. « Est-ce que vous mangez les petites filles ?»« J'ai dévoré des petites filles, des petits garçons, des femmes et des hommes, des rois et des empereurs, des villes et des royaumes, » dit-il. Et il ne dit pas ça comme s'il s'en vantait, ni comme s'il regrettait, ni comme s'il était en colère. C'était une simple constatation, tout simplement. « Je n'ose pas boire, » dit Jill. « Alors, tu vas mourir de soif, » dit le lion. « Ah non, » dit Jill en se rapprochant encore un peu. « Bon, eh bien, je vais sans doute devoir essayer de trouver un autre ruisseau. » « Il n'y a pas d'autre ruisseau. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si je vous laisse là, vous êtes mal. Ça pourrait aussi être un sujet de disserte. Hein. Il n'y a pas d'autre ruisseau. Alors ce dialogue, il n'est pas de moi, hein, il est tiré du livre « Le fauteuil d'argent » de C.S. Lewis, le quatrième tome des Chroniques de Narnia. Lewis met ses paroles dans la bouche d'Aslan qui, dans ses livres, est l'image du Christ. Ce que le Christ nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'autre source où étancher sa soif, pas d'autres eaux auquel boire que celle de la vie éternelle, seule eau capable d'étancher la soif profonde de l'homme. Rappelez-vous de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau vive renvoie à la vie éternelle. Alors, je pense que la notion d'avoir soif est une notion qui nous échappe en Occident et qui explicite, à mon sens, très bien Lewis au travers de la soif de son héroïne Jill. En effet, presque partout, nous avons facilement accès à l'eau potable et rares sont ceux qui savent ce qu'est la véritable soif. En revanche, ceux qui ont vécu déjà dans des climats très arides, à proximité d'un désert par exemple, comprennent ce que cela signifie d'avoir soif. Notre corps contenant beaucoup d'eau, une soif profonde, est simplement une vraie torture. Dès lors, boire après avoir connu une telle sensation représente l'une des expériences les plus satisfaisantes qui soit. Mes amis, la soif de Dieu en l'homme a cette même intensité. Et puis rappelons-nous aussi de cet épisode relaté par Jean dans son évangile. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors on admet généralement que cette comparaison fut inspirée à Jésus par une cérémonie qui était propre à la fête des tabernacles, une fête que commémore encore la nation juive aujourd'hui. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils installaient des tentes pendant 7 jours, et pendant 7 jours, ils ne vivaient plus dans leur maison, les juifs. Ils mettaient des tentes et ils vivaient avec toute leur famille pendant 7 jours dans ces tentes, parce que la fête des tabernacles leur rappelait le séjour au désert où ils avaient vécu sous la garde de Dieu pendant tout ce temps, sous des tentes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où Jésus se lève, en fait, on est le 8e jour de la fête. La fête donc où les familles quittent ces tentes pour retourner dans leur maison, mais avant d'y retourner, ils suivent le grand prêtre du temple vers la source de Siloé, qui est une petite source qui se situait plus ou moins à 200 mètres à l'ouest du temple. Le grand prêtre ouvrait la marche avec une grande jarre vide. Tout le peuple le suivait. Les autres sacrificateurs sonnaient de la trompette. Fallait pas être des boules. Et le souverain sacrificateur prenait de l'eau à la source de Siloé, retournait dans le temple et faisait l'aspersion sur l'autel du sacrifice. Il versait l'eau sur l'autel à l'ouest. Il remplissait une coupe de vin et répandait le vin du côté de l'est. C'est dans ce contexte-là, à ce moment-là très précis, que Jésus se lève et qu'il dit « Je suis la source d'eau vive ». Pour dire, vous pouvez aller boire de cette eau de Siloé, mais elle n'étanchera pas éternellement votre soif. La seule chose qui l'étanchera, c'est ma présence en vous. Cette source d'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que Paul dit l'Esprit de Dieu en nous, l'espérance de la gloire? C'est parce que le fait d'avoir l'Esprit manifeste tout simplement que nous avons cette vie éternelle en nous. C'est en tout cas aussi, et ça devrait nous rassurer, puisque Paul est un grand théologien, ce que l'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, donc la manne, et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Quelle boisson? Le rocher, aux sources de Marat. Vous vous rappelez quand Moïse a frappé le rocher. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. Et qu'est-ce qu'il dit Paul? Et ce rocher, ils ne le savaient pas, était le Christ. » Donc, Jésus, en se levant ce jour-là, pendant la fête des tabernacles, la fin de la fête des tabernacles, réaffirme cette réalité. Ce rocher qui vous précède de tout temps, depuis l'alliance que mon Père a faite avec vous, ce rocher, c'est moi. Je suis la source. Alors, malgré ce qui est très intéressant, je reviens à notre petite histoire de C.S. Lewis. Malgré le fait que Christ soit la source d'eau vive, il dit aussi par la bouche d'Aslan, le lion, et ça va peut-être nous perturber un petit peu plus, « Je ne fais pas de promesses. » Je ne fais pas de promesses. Alors, la question, on peut se poser, « Ah bon, à quel sujet ne fait-il pas de promesses ?» Eh bien, le lion ne promet pas à Jill qu'elle ne souffrira plus. Il ne lui promet pas une vie meilleure. Par contre, il l'invite à boire de l'eau qui lui est indispensable. Jill pouvait choisir la bonne part, comme Marie, au pied de Jésus, tout comme nous. Alors, quand on reprend ce texte de l'Évangile, c'est ça qui frappe, en fait. C'est que à la lecture, on se dit que Marthe avait raison de prendre du temps pour préparer à manger pour tout le monde. C'est vrai, il y avait de quoi faire. Jésus est là, débarque avec ses disciples, il faut bien le nourrir, le pauvre. Il doit avoir faim, ses disciples aussi. Il y a plein de trucs à faire, il faut préparer la table, il faut mettre la table, il faut préparer à manger. Et pourtant, Jésus dit non, Marthe, arrête de râler, parce que tu es seule pour préparer tout ça. Ta sœur Marie a fait le bon choix. Elle est à mes pieds, elle m'écoute, elle va boire à la source. Mais il y avait un choix. Jésus était présent, on pouvait faire des trucs, des machins, des brôles, pour lui, soi-disant, ou on pouvait être avec lui. C'est en cela que Jésus dit, Marie, ce qu'elle vient de vivre avec moi, ça, personne ne pourra plus le reprendre, et ça va la nourrir. Alors vous allez me dire, être avec Jésus, le prendre comme priorité absolue dans ma vie, ok, pourquoi pas. Oui, mais comment est-ce qu'on fait ça quand les problèmes affluent? Comment faire nos délices de Dieu quand tout notre être est concentré sur quoi? Sur les problèmes du service, comme Marthe, sur les vicissitudes de la vie. Comment est-ce que je vis ça, moi, quand mon fils est arrêté par la police? Comment est-ce que je vis ça quand mon mariage tombe en ruine? Comment est-ce que je vis ça quand ma femme est atteinte, par exemple, de la maladie d'Alzheimer? Quand ma solitude atteint les profondeurs, encore insoupçonnée jusque-là. Je pensais être seul, mais ce que je suis en train de vivre me prouve que je suis encore plus seul que je ne le pensais. Comment est-il possible, donc, de trouver son bonheur au travers de tout ça? On pourra en tout cas aujourd'hui, pour ceux qui vivent ça, et on vit tout ça plus ou moins à certains moments, Quand ça se passe, mes amis, en fait, on se dit c'est une utopie, c'est une folie, c'est de la théologie de bisounours, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne trouve pas Dieu dans ces moments-là. Et pourtant, c'était un dimanche, il y a près de 2000 ans, un homme appelé Jean eut une vision. Je fus saisi par l'esprit le jour du Seigneur. Je vous suis assuré, c'est le dimanche, hein. Je vous rappelle quand même pour ceux qui ont oublié. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Théatyre, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Jean eut cette vision parce qu'il attendait que Dieu le visite sur ce rocher où il avait été déporté par les autorités romaines pour le motif qu'il prêchait l'évangile et qu'il brisait par là la Pax Romana, la paix romaine. Jean a plus de 80 ans quand il est déporté sur Patmos et doit malgré tout travailler à l'extraction des minerais dans une des mines que recouvrait l'île de Patmos. Il ne faut surtout pas croire qu'ils se sont contentés de le déporter à 80 ans passés. Il devait travailler à la mine. D'accord ? C'était un travail dur et épuisant que ne pourrait pas fournir très longtemps même un jeune homme de 20 ans. Il en avait plus de 80. La pitance était maigre, les conditions de vie abominables, les coups de fouet nombreux et les conditions de sommeil exécrables. C'est le quotidien de Jean. Jean savait que ses compagnons de la première heure, ceux avec lesquels il avait suivi Jésus et parcouru les chemins de Judée, de Samarie et de Galilée, étaient tous morts dans des conditions épouvantables, tous morts martyrs. De plus, comme si cela ne suffisait pas, l'apôtre était découragé par la condition spirituelle de plusieurs églises locales, celle-là entre autres, dont celle d'Éphèse, dont il était le pasteur. Jean avait consacré toute sa vie au Christ, et voilà où ça l'avait mené, seul, vieux, malade, isolé sur un rocher. Du moins, c'est la vision que nous, en avons, honnêtement. Une chose est sûre, c'est que si Jean avait suivi Jésus dans l'espoir d'avoir une meilleure vie, il ne pouvait qu'être profondément déçu. C'est à ce moment-là que le Christ lui est apparu. Et moi, une chose que je relève d'emblée, qui ne s'est pas produite lorsque Jésus se révèle à Jean, lorsqu'il lui apparaît, si je peux dire ça comme ça. Christ n'a pas apporté un matelas à Jean. Il dormait par terre sur la roche, hein. Il n'a pas apporté un matelas. Il n'a pets fait apparaître une table remplie de mets savoureux. C'était ses besoins, c'était légitime. Il n'a pas d'un coup de baguette magique enlevé l'apôtre de l'île de Patmos pour le ramener sur le continent à Sardes, par exemple, ou à l'Odyssée en vue d'animer des séminaires portant sur les moyens d'obtenir la bénédiction de Dieu. Il n'a pas fait ça, le Christ. Ce qui s'est passé est bien mieux. Jean a reçu une révélation de la personne de Jésus-Christ. Ce qui me fait dire que la prière de Jean sur l'île de Patmos n'a jamais été « Seigneur Jésus, viens à mon secours ». Mais bien « Viens, Seigneur Jésus, viens, toi ». En personne. Non, parce que moi, je ne demande rien. Je ne demande aucun miracle. Ce que je veux, c'est toi. C'est d'ailleurs, et c'est symptomatique, hein, la prière qui clôt le livre de l'Apocalypse et qui clôt la Bible. Rappelez, viens, Seigneur Jésus, viens. On fait parfois cette prière, nous. Hein, mais juste après, on dit pas trop vite quand même. Hein. J'ai encore des trucs à vivre, je marie ma fille, mon fils, j'ai des trucs sympas, puis j'aimerais bien encore partir en vacances quelque part. Rien de tout ça. La prière de Jean, isolée sur ce rocher, c'est « Viens instaurer ton royaume ». Et ça, c'est intéressant. Ça devrait nous encourager peut-être. Le Saint-Esprit a répondu à la prière de Jean, de voir Jésus venir. Et ça, c'est le scoop, c'est la prière, oserais-je dire peut-être, la seule prière que Dieu finit toujours par exaucer. C'est de venir lui, de se montrer lui faut aussi préciser que le Jésus qui va se présenter à Jean ce dimanche-là, il ne va pas l'être sous les traits du doux et pacifique charpentier de Nazareth. Hein, non. Du maître compatissant, de l'ami qui permettait à Jean de poser sa tête sur sa poitrine. Non. C'est pas ce Christ-là qui va apparaître à Jean. C'est celui-là. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux, un peu comme le grognement du lion. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. À cette vision-là, ce n'est pas étonnant que Jean soit tombé à terre, nous dit le texte, comme s'il était mort. Et que toute pensée éventuelle pour avoir une couverture ou un chocolat chaud avait totalement disparu de sa pensée. Jean avait besoin de cette vision de Christ vu les circonstances qu'il connaissait. Il avait besoin de cette vision de la véritable réalité que nous avons tellement plus en Jésus que nous l'imaginons. Le Christ représente tellement plus que tout ce dont nous avons toujours rêvé. C'est Paul qui dit ça, entre autres. Nous expérimentons si peu de lui quand nous nous présentons avec nos requêtes personnelles. Nous goûtons si peu à cette crainte respectueuse qui a le pouvoir de faire taire non seulement nos jérémiades, mais aussi de nous faire taire tout court. Quand ça vous apparaît, quand lui vous apparaît, vous taisez, hein, ça suffit ça. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Il avait besoin de cette apparition, Jean. Il avait besoin que son maître lui dise, malgré tout ce que tu vis, malgré ce que les églises vivent, je suis le magistère, comme le dit le texte grec. Je suis celui qui dirige toutes choses. La réalité, ce n'est pas ce que tu vis. La réalité, c'est ce que je suis, moi. Et Jean avait besoin de cette vision. Que même sous l'île de Patmos isolée, le Christ prenait soin de ses églises. Oui, ça c'est un truc que tous les chrétiens du monde, même ceux les plus engagés au service de Dieu, doivent comprendre. Nous sommes des outils, nous sommes un canal, bien entendu, mais nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu peut faire sans nous. Et de temps en temps, il dit, ne t'inquiète pas pour tout ça. Pense à moi, c'est moi qui suis important. Cette crainte silencieuse auquel je fais allusion fait naître en nous le désir que sa présence crée. Plutôt que de nous perdre dans nos problèmes et les moyens très humains à notre disposition pour tenter de les résoudre. Autrement dit, choisir de le rencontrer lui plutôt que de rencontrer la solution à nos problèmes. Et Jean, il avait le léger problème sur son île, hein, non ? J'ai envie de dire par rapport à mes problèmes à moi, c'est de la rigolade. Hein. Mes problèmes sont de la rigolade par rapport à ce qu'il vivait lui. Ça n'inquiète pas. Il y a d'autres textes, hein, quand on lit le Nouveau Testament. Pierre est condamné à mort, il est dans sa cellule entouré de 6 gardes pour être sûr qu'il ne s'en va pas. Il va être mis à mort le lendemain. Et c'est symptomatique. Hein. Le texte dit que Pierre s'est endormi. Il dort, Pierre. Vous êtes mis à mort demain matin à 5h. Vous dormez, vous, la nuit qui précède. Pierre, il roupille, lui. Ça veut dire quoi ? Oh, il veut me tuer, mais Seigneur, je vais être près de toi. Le pied, quoi ! Non ? Moi, j'ai après l'impression, si on doit mourir demain, qu'on va s'attacher, s'accrocher au matelas, au lustre. Voilà. Nous expérimentons si peu la joie dans la souffrance, cette joie qui est supposée être notre soutien et notre allié, justement, dans les moments difficiles. Alors, nous reprenons le sentier qui nous éloigne des difficultés au lieu du sentier qui mène dans la présence de Dieu. Alors, j'ai souvent rappelé, vous le savez sans doute, du moins j'espère, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu d'amour, autrement dit un Dieu qui souffre. Alors, n'étant qu'un homme, je ne sais pas ce que cela peut être pour Dieu de souffrir. Je ne sais pas. Chaque souffrance est unique, car chaque homme est unique. Je suppose donc que c'est exponentiel pour Dieu. La souffrance de Dieu, elle est, avec un exposant, on ne peut même pas imaginer. Je peux juste tenter des comparaisons. Vous savez que j'ai toujours aimé Elvis Presley, pour ceux qui ne savent pas. Non, vous savez. Hein. Et ça remonte à ma plus tendre enfance. Elvis a toujours été là. Il était un peu la bande-son de mon enfance et de mon adolescence. Si j'ai fait de la musique, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, il est un peu ma nostalgie. Je vieillis, donc je viens nostalgique. La nostalgie de quelque chose de perdu, mais je ne sais toujours pas quoi. Et je n'ai pas vraiment envie de le savoir d'ailleurs. Elvis a été pendant des années entouré en permanence de dizaines de personnes. C'est ce qu'on appelait la Memphis Mafia, la mafia de Memphis. Il était entouré de dizaines et de dizaines de gens en permanence. Ça a fini par coûter la vie de son mariage. Il n'était donc jamais seul. Et c'est cette prise de conscience qui l'a tué finalement. Parce qu'un jour, il les a mis tous dehors. Tous, sans exception. Il les a tous virés. Tous ces gens qui étaient tout le temps autour de lui, il les a tous mis dehors. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'à la fin, il ne savait plus qui était là par amour pour lui ou par intérêt. Parce qu'il était le king. Et cette prise de conscience-là a fini par le tuer. Je me demande parfois si Dieu n'a pas le même ressenti. Ils ne veulent toujours pas de moi, ils ne veulent que ce que je peux leur offrir. Mes amis, Dieu veut toujours nous donner la vision de lui dont nous avons besoin. Seul sur son rocher, Jean avait besoin de voir ce Jésus maître de l'univers et de l'Église. Et parce que Jean était profondément touché par cette réalité que Christ règne malgré les apparences et les souffrances, il a pu encourager ses frères et sœurs dans la foi au travers de cette lettre de l'Apocalypse, qui est d'abord un message codé à destination des églises de la région d'Asie qui subissaient la persécution. Cette belle lettre de l'Apocalypse, que soit dit en passant, nous n'aimons pas, que nous ne lisons jamais, me trompe-je. C'est bizarre, ça me trompe-je. Est-ce que je me trompe? C'est moins français, mais c'est plus joli. Alors, on ne l'aime pas sans doute parce qu'elle est obscure, alors qu'il est plutôt lumineux, lui, hein, au début de la lettre. Parce qu'elle est obscure, mais aussi sans doute un peu parce qu'on y présente Dieu et Christ d'une manière dont nous ne savons quoi faire ici-bas et maintenant dans nos petits problèmes. Parce que ça parle du futur, du présent, hein, il règne déjà comme ça, mais du futur aussi, de mon futur, de ma destinée éternelle. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment je vais arriver à finir mon mois aujourd'hui. Sentez la distance. Si la vie chrétienne s'articule autour d'une vie qui fonctionne d'une certaine manière, dès que nous rencontrerons des épreuves, nous en conclurons que nous avons fait quelque chose de mal ou que Dieu n'est plus aux commandes de la situation qui nous préoccupe. Mais je crois qu'il faut être clair et on ne prend pas conscience de ça. Ce fonctionnement a pour effet immédiat d'affaiblir notre vision de Dieu et on ne le verra jamais comme ça, comme il est. C'est aussi pour ça que peu de chrétiens attendent encore le retour du Christ. Hein. Vraiment. Ils fêtent en permanence toute l'année durant la fête des tabernacles. Ils sont dans leur tente ici, bien au chaud, avec un faux chauffeur, la télé et tout. Ouh, super! Mes amis, la seule chose que Dieu nous a promis, je vais répéter parce que c'est la plus grande promesse de la Bible, c'est la seule en fait, c'est lui-même. Point. Après, il y a des trucs qui se rajoutent. Hein. S'il est prioritaire, rien de moins que lui, mais rien de plus. Et le rien de plus est quelque part ridicule et ne devrait même pas être mentionné. Et pourtant, ce plus, c'est ce qui nous apporte le plus. Ce n'est pas lui. C'est ce qu'il est capable de nous donner. Augustin d'Hippone, hein, qui est passé dans la postérité sous le nom de saint Augustin, a dit quelque chose de vrai, mais aussi de terrible sur cette manière de vivre. Quand un homme vit selon les hommes, donc selon lui-même, et non selon Dieu, il est comme le diable, parce que c'est exactement le type de vie qu'a le diable. C'est une vie sans Dieu, sans référence à Dieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le diable croit en Dieu, hein, comme tous les chrétiens disent le faire. Hein. Rappelez ce que Jacques dit dans son épître. Tu crois en Dieu, tu fais bien, le diable aussi. Et il tremble. Mes amis, la foi, le fait de croire en Dieu, ça doit avoir une conséquence immédiate. Si on veut que cette foi, que cette croyance soit une réalité tangible, c'est qu'elle doit être liée à l'obéissance. Quand Dieu vous dit, est-ce que tu crois ça? Il dit, oui. Est-ce que tu le vis? Ah non, alors tu ne crois pas. Vous comprenez? Et c'est ça qui rend fou Jacques quand il écrit à ses frères chrétiens. Vous dites que vous croyez dans le Christ et toute votre vie prétend et manifeste le contraire. Quand un homme vit selon les hommes et non selon Dieu, il est comme le diable. En réfléchissant à ça, pas spécialement à ça, mais le fait que notre vie est souvent mélangée, est un mix de catastrophes et de moments de bonheur relatif. Il y a Charles Spurgeon qui m'est revenu. C'est un pasteur du 19e. Alors, vous connaissez peut-être pas Spurgeon, mais il était considéré à l'époque comme le plus grand orateur de toute la chrétienté. Quand il prêchait, paraît-il, les murs tremblaient, pas seulement par la puissance de sa voix, mais parce qu'il envoyait, par la puissance de ce qu'il disait. Un peu comme moi. Non. Ben non, même pas. Ce que peu de gens savent, par contre, c'est que ce grand prédicateur et pasteur anglais a souffert toute sa vie d'arthrite. L'arthrite, certains connaissent peut-être. Aujourd'hui, on a des médocs. Ça ne résout pas tout, mais ça, à l'époque, schnoll. Tu as de l'arthrite, tu crèves, tu as mal en permanence. Il souffrait de gouttes sans boire un verre d'alcool. Ça, c'est pas de bol. Il souffrait de gouttes. Parfois, il devait prêcher assis avec sa jambe étendue. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, si je peux dire. Il souffrait, tous ses amis ont écrit, parce qu'il ne comprenait pas, en fait. Il souffrait de dépression profonde, très régulièrement. Enfin, vu son église, moi, j'aurais peut-être été dépressif aussi. Il a été le pasteur de la plus grande église de son temps. Des milliers de membres. Il a écrit un nombre incalculable de livres sur la vie spirituelle et tous se sont vendus à des millions d'exemplaires. Pour le dire autrement, c'était un solide bonhomme, dans tous les sens du terme. Oui, mais comment expliquer alors ce mélange d'épreuves et de bénédictions? Et comment l'expliquer dans un autre? Je précise un truc, c'est que toutes les bénédictions dans sa vie, c'était quel type de bénédiction? Spirituelle. C'était un pasteur béni, avec un ministère béni. Il avait une vie spirituelle bénie. Mais sa vie, humainement parlant, était une catastrophe. Toutes les tuiles qui passaient semblaient tomber sur sa tête à lui. Ce qui est très intéressant, c'est quand on lit la correspondance de Spurgeon, pas une fois, il ne se plaint. Chaque fois qu'il parle de quelque chose à ses meilleurs amis, qui sont aussi dans le ministère, il fait un truc. Il parle uniquement de ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Lui, ça n'a absolument aucune importance. Qu'est-ce qui est important? Le Christ qui est aussi avec lui quand il a mal. Dont le bien suprême que Dieu veut, mais vraiment veut, nous accorder ici-bas, c'est lui-même. À part ça, rien n'est garanti et il n'a jamais rien promis. Parce que les biens que nous réclamons sont souvent bien inférieurs à une véritable rencontre avec Dieu. Une rencontre qui dynamise, qui vivifie, qui détruit notre orgueil. Parce que, indépendamment de tout le reste, et je ne m'extirpe pas du groupe, je suis le même. Quand je revendique quelque chose à Dieu, pour moi-même, pensez pas que, franchement, il faut vraiment être complètement à côté de ses pompes. De quel droit est-ce qu'on revendique quoi que ce soit? Exiger de Dieu quoi que ce soit? Mais enfin, mes amis, est-ce qu'on a le droit d'exiger quoi que ce soit de Dieu? Par sa présence, bien sûr. Si quelque chose d'autre que Christ est notre raison de vivre, si nous faisons dépendre notre joie la plus profonde d'autre chose que la contemplation du Christ, je pense, je suis même certain, que nous risquons à certains moments de notre vie d'être profondément malheureux. Alors j'aimerais terminer par un petit tour dans quelques prières du Nouveau Testament. Dans deux prières du Nouveau Testament et une de l'Ancien pendant qu'on y est. Je vais vous gâter. Pour que nous prenions conscience de leur contenu et par exemple, du pourquoi les chrétiens de l'époque priaient. La première que je prends, il n'y a pas de diapo, c'est une prière qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 4. Voilà ce que les chrétiens réunis prient, sont réunis, réunion de prière. Okay? Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors on peut lire ça avec beaucoup de détachement, sauf quand on connaît le contexte. Ils sont en pleine persécution. Les chrétiens de Jérusalem sont persécutés. Et pourtant, ils ne demandent rien pour eux-mêmes. Ils ne disent pas « Seigneur, enlève cette persécution, sauve tes serviteurs ». Ils ne disent pas ça. Hein? Non, non. On s'en fout des circonstances. Nous, ce qu'on te demande, c'est ta puissance pour annoncer l'évangile. Et même si on doit y laisser notre peau, eh bien, ce n'est pas grave, parce que tu es notre vie. Voilà, en résumé. Que Dieu fasse à travers eux son ministère. Que l'évangile progresse. Éphésiens 1, il y en a des dizaines comme ça. Il n'y a que ça, en fait, comme type de prière. Éphésiens 1, c'est Paul. Hein. Il écrit aux Éphésiens, « Je prie qu'il, donc le Christ, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » L'espérance, c'est la vie éternelle. Hein. « Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Paul demande à Dieu que les Éphésiens prennent conscience du trésor qui est le leur. Et ce trésor, ce ne sont pas des bénédictions à la pelle et une vie facile. Ce trésor, c'est le Christ lui-même et la puissance de sa vie qui habite chaque chrétien et chaque chrétienne. C'est ça que Paul souhaite aux Éphésiens, qu'ils ouvrent les yeux sur la véritable réalité. Vous ne trouverez aucune prière de type égocentrique dans la bouche des chrétiens du Nouveau Testament. Aucune. Ils ne demandent jamais rien pour eux. Ce qu'ils demandent, c'est le Christ. C'est tout. Ce qui est toujours au centre de leur prière, c'est Dieu et son royaume, jamais eux-mêmes. Peut-être comprendre que ça ait en 30 ans, le monde connu de l'époque a été évangélisé. Peut-être mieux comprendre. Et c'est d'ailleurs tout à fait explicable. L'intimité avec Dieu et la vie de disciple sont comparables à une vieille pub pour la gueuse, la bière. Au plus tu la goûtes, au plus, au mieux que ça te goûte. Avec Dieu, c'est la même chose. Ce que je ne dois pas faire pour que ça imprime. Avec Dieu, c'est pareil. Toutes les choses secondaires que nous recherchons si souvent pâlissent à la lumière de la présence de Dieu. Et quand on est engagé dans le royaume, progressivement, le reste revêt moins d'importance parce que, comme disait Jésus, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, je parlais de ces deux prières du Nouveau Testament. Il y en a une, ce n'est pas vraiment une prière, mais c'est un dialogue qu'on trouve dans l'Ancien. Pardon. On trouve des paroles qui expriment l'intimité et la confiance en lieu et place de circonstances, au milieu de circonstances terriblement dangereuses et désagréables. C'est dans le livre de Daniel. Voilà les trois amis de Daniel, là. Vous voyez ? C'est pas grave, qui sont donc des juifs croyants et qui font tout malgré qu'ils sont à Babylone sous une autorité qui est tout sauf en rapport avec le Dieu d'Israël, qui font tout pour rester fidèles à leur Dieu, au risque de leur vie. Et un jour ça arrive, il y a un décret qui dit qu'en fait tous les membres de l'empire babylonien doivent se prosterner devant la statue gigantesque que le roi Nabuchodonosor vient de faire construire. Il faut que tout le monde adore cette statue. Et comme ces trois gars-là, ces trois juifs d'origine, sont répertoriés dans l'Empire comme étant des sages clairvoyants et qui ont l'oreille du roi, pour casser tout ça et s'en débarrasser, les autres mages, babyloniens eux, disent « on va siffler à l'oreille du roi qu'il doit exiger de tous ses sujets de s'agenouiller devant cette statue. » Et à un moment, on rapporte ce rapport au roi, on dit « oui, mais il y en a trois là qui ne veulent pas s'agenouiller devant toi. » Et là, le roi dit, que ceux-là soient amenés. Alors, on fout le feu dans une sorte de fournaise terrible, la fournaise ardente, et on amène les trois gaillards devant Nebuchadnezzar qui dit, je vous exige de vous que vous vous agenouilliez devant moi, que vous m'adoriez comme Dieu, en fait. Et voilà la réponse des trois cocos. Ils vont être jetés dans le feu, hein, accessoirement. Voilà. Notre Dieu, roi, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même, écoutez, même s'il ne le fait pas, même si on meurt, sache le roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Jette-nous dans ton truc, on s'en fout, quoi. Les trois amis ne prient pas pour que Dieu les sauve, mes amis. Ils ne prient pas pour ça. Ils pourraient dire, oh, au secours, même pas. ils se remettent simplement entre les mains de Dieu. Si Dieu les sauve, c'est bien. Mais s'ils souffrent, parce qu'ils vont quand même le sentir passer, hein, s'ils doivent y mourir, s'ils souffrent et meurent, c'est bien aussi. Il est encore plus important en disant, et même s'ils ne le faisaient pas autrement, même s'ils ne nous sauvent pas, même s'ils ne changent pas les circonstances par lesquelles nous allons passer, autrement dit, s'ils ne nous sauvaient pas ici-bas, nous ne servirons jamais tes dieux, jamais. Ce qui signifie que même si Dieu ne nous bénit pas en nous retirant de l'épreuve, il reste néanmoins notre Dieu et fait ce qu'il veut parce qu'il est le seul Dieu et si c'est sa décision, moi ça me va. Moi ça me va. Voilà ce qu'ils disent. On est peut-être loin de la majorité des prières qui s'élèvent des églises aujourd'hui, me semble-t-il, pour lesquelles la gloire de Dieu et le royaume de Dieu... Alors j'aimerais terminer, je termine vraiment, par une citation de Jean d'Ormesson, journaliste, écrivain, académicien et agnostique notoire, décédé récemment et qui est l'auteur de la célèbre formule « Je doute en Dieu », a-t-il toujours dit, par opposition à ceux qui croient en Dieu. Voilà ce qu'il dit. « Ceux qui croient à Dieu ont beaucoup de chance. Leur vie devient une lumière et une fête. Tout leur est gratitude et admiration. Leurs bonheurs sont heureux parce qu'ils annoncent un autre bonheur plus sûr que tous les autres, jusqu'à leurs souffrances qui prennent un sens. Leurs malheurs sont une promesse. Leurs malheurs sont une promesse. » Alors, c'était un extrait de son livre « Le guide des égarés ». Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en lisant ça, ce qu'un gars qui ne croit pas en Dieu dit de ceux qui croient en Dieu, gentil Jean d'Ormesson quand même, avec nous, non? J'ai un peu honte en relisant ça, de vivre une vie en deçà de ce que lui pensait en comprendre. Ils ont de la chance, si Dieu fait vraiment partie de leur vie, mais c'est éblouissant, quelle chance ils ont. Plein de gens qui me disent ça, oh, quelle chance tu as. J'ai toujours, cette chance tu peux l'avoir aussi, mais quelle chance ils ont d'avoir Dieu dans leur vie, de croire. C'est extraordinaire. Hein. Tout leur est gratitude et admiration. Ils disent merci tout le temps, quoi qu'il arrive, sans blague. Alors, ce qui est triste, peut-être, pour ce merveilleux écrivain, c'est que l'on sent sa soif de Dieu, même s'il ne parvenait pas à la verbaliser. En fait, comme tous les grands écrivains, il a écrit des dizaines de livres, il a toujours réécrit le même livre. Et en filigrane, dans tous ses livres, que ce soit des romans ou des essais philosophiques, c'est toujours Dieu, ou le concept de Dieu qui traverse ses livres. Je me dis aussi qu'il n'a probablement, durant toute sa vie, pas croisé un seul chrétien qui vivait ça. C'est pour ça. Qui vivait ça. Ou peut-être comme notre ami Gilles du début de l'histoire, peut-être qu'il a aussi quelque part eu peur du lion, qui sait. Mais pour nous, il suffit de rappeler que le lion en question est en nous, ainsi que la source qu'il dispense. La rivière, il ne faut plus y aller y boire, elle est en vous, elle est en chacun de nous. Ce qu'il nous reste à faire, mes amis, c'est de puiser tous les jours de notre vie dans cette source, y boire tous les jours, parce qu'elle nous appartient. Amen.